au bout de la langue. Salutone Sébastien.
Salutone Catel.
Alors aujourd'hui on se retrouve pour un de nos derniers rendez-vous avec l'espéranto.
Avant-dernier,
oui, mais peut-être pas le dernier si vous revenez l'année prochaine, bien sûr. Alors on va commencer bien sûr par les informations pratiques. Un invité aussi tout à l'heure, ce sera Kir, un bonhomme comme on n'en croise pas tous les jours, on fera sa connaissance tout à l'heure. Et puis bien sûr le petit point de grammaire en fin d'émission. Mais pour l'instant, qu'est-ce qui se passe autour de l'espéranto ?
Alors on est maintenant au mois de mai, on approche bientôt de l'été et vous allez voir pour la dernière mission, ce sera la partie la plus chargée. Mais là déjà les événements d'espéranto, c'est souvent l'été, c'est la période la plus chargée. Alors dans ce qui s'est passé récemment, citons par exemple le 8 au 12 mai, une rencontre sur le thème des randonnées à la Gvin Petalo, c'est un lieu de stage dont j'ai souvent parlé, près de Poitiers. Un week-end de bricolage au château de Grésillon, le château de Grésillon dont là encore j'ai aussi à plusieurs reprises parlé, dont je parlerai beaucoup aussi le mois prochain. La rencontre des associations des jeunes néerlandais et des jeunes flamands qui s'appelle le printemps de 2002 du 8 au 12 mai, le congrès interassociatif 2002 de l'espéranto en France à Strasbourg qui réunit toutes les plus grandes associations d'espéranto en France. Donc c'était du 17 au 20 mai à Strasbourg. Un stage d'espéranto dans le Pays de Loire, etc. Donc ça c'est pour ce qui est passé. Et donc pour ce qui est à venir, de nombreuses choses. Hein, je pourrais pas tout citer. Il y aura un congrès, le 5e congrès croate d'espéranto du 31 mai au 2 juin, du 1er mai au 7 juin le congrès, le 54e congrès des cheminots en Bulgarie, le 24e printemps balte d'espéranto, une rencontre écotouristique en République tchèque. Citons plus proche de nous, donc là encore à la Gvin Petalo dont je parlais tout à l'heure, près de Poitiers, un cours de haut niveau sur le thème de la musique avec Thierry Page. Un autre week-end au château de Grésillon le 22-23 juin, du 22 au 24 juin, là c'est de l'autre côté de l'Atlantique, le 50e congrès de ELNA, c'est la Ligue d'Espéranto d'Amérique du Nord à Sacramento en Californie, du 24 juin, ça c'est intéressant, notamment pour les jeunes, du 24 juin au 13 juillet, il y a un chantier international qui consiste en la rénovation d'une auberge de jeunesse avec à côté des cours d'espéranto de tous les niveaux à Leisfjord, dans l'ouest de la Suède.
Ça, c'est pas en espéranto. Hein.
C'est un peu plus difficile à prononcer. Du 25 au 30 juin, un symposium dédié au 110e anniversaire de la société Espéro à Saint-Pétersbourg, en Russie. Un autre symposium, à peu près les mêmes dates, sur l'éducation écotouristique en Roumanie. De toute façon, tous ces événements, vous pouvez les retrouver comme d'habitude sur notre site. Hein. Je redonne l'adresse http://esperanto.bretonio.free.fr, donc que vous retrouverez dans la rubrique actualité. Où il y a dans la rubrique actualité, vous trouverez toutes les actualités régionales, mais tout en bas, vous trouverez un lien vers le calendrier où il y a tous les événements espérantophones partout dans le monde, donc dans un calendrier bilingue.
Parce qu'on a l'impression que tous les espérantophones se promènent toute l'année hein, avec tout ça.
En effet, ouais. Et puis surtout en été, hein, justement, mais ça, on verra ça le mois prochain, ça va être une rubrique très chargée. Alors maintenant, je propose qu'on écoute le groupe Esperanto. C'est un groupe qui s'appelle Esperanto. C'est un groupe de musiciens qui ne sont même pas espérantophones eux-mêmes, hein, mais qui ont quand même fait deux ou trois chansons en espéranto. Hein, c'était la moindre des choses. Et donc, on écoute leur chanson « L'abandonio ».
Y el océano y el león, y el macho y el sembrazí, mi más feliz ya prohibí, los colores del acordeón. Lay, 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 lay dice nua zanga son sinto la sguardo alla va la luce sopra danze mo il corpo a corpo a torna
Voilà Sébastien, c'était le groupe Esperanto, ça résonne bien espagnol aussi. Hein.
En effet.
Alors, on va retrouver tout de suite votre invité. Je le disais en début d'émission, c'est un bonhomme comme on n'en rencontre pas souvent, c'est Kir.
Alors bonjour Kir, donc tu es néerlandais, c'est ça? Tu as 71 ans, alors tout le monde dans le département, on en a déjà souvent parlé, connaît Zéphirin Jégar, donc qui a 65 ans, qui a traversé la Sibérie, le Pakistan, la Chine, la Mongolie. Et ben toi, t'as aussi beaucoup de force dans les mollets, vu que tu l'as accompagné lors de ces deux trajets. Donc ben parle-nous un petit peu de ton voyage auprès de Zéphirin.
On s'est connus dans la capitale d'Ukraine, à Kiev. Puis après, on a fait ensemble avec un groupe international d'espérantistes, on a fait un tour à vélo au Crimée. Après, on a fait un congrès espérantiste pendant une semaine. Et après, nous nous sommes décidés de retourner, nous deux, à vélo vers Europe occidentale. Et c'est comme ça que nous deux sommes allés à Odessa. On a resté là chez des espérantistes. Après, on a pris le vélo et on a traversé l'Ukraine, Moldavie. À Roumanie, on a dû prendre le train parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour trouver un visum de 3 mois. On avait seulement l'argent pour 2, 3, 4 jours. Et on nous avait averti, faut pas acheter un prolongement chez le policier, chez la police du village, parce qu'ils te tromperont, ils te garantiront que tu peux rester là encore un mois. Non? Alors, on a été prudent et on a sorti dans 2, 3 jours à travers la Roumanie, et puis après, nous sommes passés par la Hongrie, et là, on s'est séparés. Zef, il a continué à vélo jusqu'à la France, et moi, j'ai continué par train jusqu'à Berlin, puis Hollande, et après 2 mois, on s'est rencontrés encore une fois chez moi, aux Pays-Bas, et alors nous nous sommes transportés en Pologne, en auto, puis en train au même départ de la mer d'Azov. Et là, on a commencé à faire du vélo le long du Don et du Volga. Et après un certain temps, il continuait toujours.
Tu l'as pas suivi jusqu'au bout?
Non, je n'avais pas assez de patience. Moi, j'ai dit, je veux un changement. Après quelques 2, 4, 3 semaines, je me disais, j'ai vu assez de ça, je vais voir maintenant la lumière du Nord. Alors, Zef, il a continué vers l'Oural, et moi, j'ai pris le train pour Murmansk, au nord. Et là, j'ai été au soleil pendant une semaine, 24 heures par jour, et c'était...
À l'endroit où il fait toujours jour, c'est ça?
Oui, pendant l'été au moins.
Alors, il faut expliquer tout de suite à nos auditeurs que si tu parles français, bien sûr, tu parles également espéranto. Ça a été votre essentielle langue d'échange avec Zéphirin. Mais si tu parles français, c'est que tu as été interprète, c'est ça?
Oui.
Donc interprète, où ça?
Aux Pays-Bas, on avait une usine des aceries, des hauts fourneaux, et on avait en total 20 000 ouvriers, et 3 000 d'eux étaient espagnols. Et aux Caraïbes, aux îles Caraïbes des Pays-Bas, j'avais appris une langue élémentale, Papiamento, et après j'ai su convertir ça assez facilement en espagnol.
Donc tu étais interprète pour l'espagnol, l'anglais je crois aussi.
Oui, je parlais, mais avec les Espagnols, je n'avais pas besoin de parler anglais parce qu'ils ne savaient pas. Alors, l'anglais, j'ai appris et j'ai un document officiel pour être plus ou moins correspondant, correspondance commerciale pour la France, pour l'anglais au moins.
Donc officiellement, donc, tu traduisais l'espagnol, l'anglais et l'allemand, je crois aussi.
L'allemand, parce que après, je suis allé au Mexique. Nous sommes allés au Mexique. On avait besoin d'un interprète et parce que on plus ou moins avait confiance en moi, je suis allé avec eux. Alors, il y avait des Mexicains, il y avait des Allemands, parce que les hauts fourneaux des Hollandais avaient fait un contrat avec une compagnie allemande. Alors, allemande. Et un anglais, il y avait déjà un anglais aussi, alors c'est comme ça que j'ai été plus ou moins un interprète, disons, international.
Mais tu connais plusieurs autres langues à côté, je crois. Enfin, ou du moins tu comprends.
J'ai été en Suède, alors je sais lire la langue suédoise. Si je sais le parler, c'est élémentaire. Et puis après, j'ai étudié la langue russe et la langue turque. Mais j'ai une capacité énorme d'oublier les choses. C'est très regrettable, le don d'oubli, ça me poursuit.
Mais j'ai pu voir que tu étais très curieux parce que l'autre fois, tu étais venu avec Zéphirin et moi-même au collège d'Iwan quand on était venu présenter l'expérience de voyage de Zeph et j'ai vu que tu regardais les textes en breton et que tu avais commencé un peu à apprendre le breton en quelques heures.
j'ai écrit le menu. Parce que ça, les caisses, c'est le fromage et le pain, je ne me rappelle plus, j'ai commencé en
bas.
Bara.
Alors. Justement, ça vous intéresse les langues minoritaires, qu'on dit minoritaires, les langues régionales notamment, qu'est-ce que vous en pensez?
Toutes les langues, mais les minoritaires et aussi les majoritaires. La langue minoritaire des espérantistes, ça sera encore 2 ou 3 ans minoritaire et puis après, on mangera, comment est-ce qu'on dit, on aura du levain et ça va grandir un peu. Et la langue bretonne, c'est tout à fait intéressant, mais j'ai commencé par calculer. J'ai commencé par l'hollandais. La deuxième langue que j'ai appris, c'était l'anglais. Alors j'ai calculé, il y a 30 millions de gens qui parlent hollandais. Si j'apprends l'anglais, ce sera 35 millions de plus. Alors je gagne dans les 1000%. Dans les 1000%, je gagne si j'apprends l'anglais. Après, j'ai ajouté le français. C'était, disons, 200 millions qui... Alors, j'ai ajouté encore un certain pourcentage, je ne me rappelle plus. Et alors, j'ai appris le papiamento. Et le papiamento, c'était tellement petit que j'ai ajouté ni 1%, mais peut-être le 1/100% des gens qui parlaient cette langue. Alors,
Papiamento, c'est une sorte de créole.
Il y a 100 000 gens qui le parlent, ouais. Plus ou moins.
Mais justement, à propos des langues minoritaires, je pense que tu connais aussi peut-être une situation un peu équivalente aux Pays-Bas avec le frison, qui est une langue régionale des Pays-Bas en quelque sorte.
Oui, ça aurait pu me coûter une bainte fois parce qu'on faisait le patinage sur les canaux de Friesland.
Oui.
Le soir, on avait commencé le matin et le soir, quelqu'un nous crie, nous passons sur un canal et quelqu'un nous crie quelque chose, mais en frison. Et c'est pour avoir des frissons parce qu'il criait, il y a un trou là, mais je ne l'ai pas écouté. Rendez-vous compte, alors deux Hollandais qui patinent en
vous compreniez pas ce qu'il disait?
Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, mais nous avions des frissons avec dans le groupe, on était 5 ou 6, 5 je crois. Et alors il disait non, pas, faut passer par la côte, par la côté du canal, sinon tu vas nager un peu.
Alors donc tu es polyglotte, on pourrait même dire que tu es sociologue, grand voyageur cycliste, espérantiste. Dis donc, tu as beaucoup de cordes à ton arc, Kir.
je vais faire beaucoup, mais pas à la perfection, parce que ça coûte trop de temps. J'ai été le traducteur le plus rapide des Hauts Fourneaux, mais pas le meilleur.
Donc ben merci Kir d'être venu de nous parler. Donc alors juste avant de finir, qu'est-ce qui nous vaut ta visite là à l'instant en France? Pourquoi tu es là?
Mi estas ĉi tie por ĉeesti en la festo de Zef, kiu hieraŭ havis la okazon de publikigi oficiale sian libron pri la voyageado en la mondo.
Alors je traduis, donc je suis ici à l'occasion de la fête de Zef, à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, hein, donc où tu l'as accompagné en partie. On rappelle le livre de Zef dont on a beaucoup parlé, hein, Papy fait le tour du monde, donc un livre de 250 pages, dont 16 pages photocouleurs, et préfacé par Bernard Hinault.
Et moi je l'ai lu et je me suis dit, ben, on a fait le même kilomètre. Mais il a vu beaucoup plus que moi, parce que il a senti des choses. Moi, j'étais enrhumé, peut-être. Je ne l'ai pas senti.
Bon, eh bien, merci. Merci, Kir.
C'est le plaisir était à moi. Merci.
C'est un groupe de rock argentin. Alors là, ça s'entendait pas que c'était du rock. Habituellement, ils ont des morceaux un peu plus violents, mais là, c'était une balade très sympathique. Donc du groupe La Porcoy, un groupe argentin.
Bah, peut-être qu'on aura l'occasion d'écouter d'autres morceaux un petit peu plus hard, comme on dit. Sébastien, on va passer comme chaque mois au point de grammaire en espéranto. Alors eh bien, ce mois-ci, qu'est-ce qu'on va...
Eh bien, ce mois-ci, on va faire des révisions, des grandes révisions, des révisions générales d'un petit peu tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Alors, on se rappelle qu'en espéranto, on reconnaît les mots à leur terminaison. C'est-à-dire, dès qu'on voit un mot ou dès qu'on entend un mot, eh bien, on sait, en entendant la fin, de quoi il s'agit. Alors donc, par exemple, tout ce qui se termine par O, c'est des noms en espéranto. Tous les noms se terminent par O. Tous les adjectifs se terminent par A. Et tous les adverbes se terminent par « e ». Hein. C'est « o » comme nom, « a » comme adjectif et « e » comme adverbe. C'est un peu tiré par les cheveux. Alors ensuite, le pluriel en espéranto. Donc on se rappelle qu'il n'y a pas de pluriel irrégulier. Enfin, de toute façon, il y a aucune irrégularité en espéranto. Donc il n'y a pas de pluriel irrégulier. On rajoute simplement un « j » qui se prononce « ye ». Par exemple, « arbo » un arbre, « arboy » c'est des arbres. Hein. Et ça s'écrit avec un « j ». A-R-B-O-J. Alors on avait peut-être vu, ou très rapidement, ce qu'on appelle l'accusatif en espéranto. C'est ce qui sert à indiquer le complément d'objet direct. Hein. En français, nous, le complément d'objet direct est indiqué par l'ordre de la phrase, sujet, verbe, complément. Il y a des langues où justement il est indiqué par la terminaison, c'est le cas en espéranto. C'est-à-dire qu'on rajoute un N tout à la fin du mot, par exemple. La cato, le chat, manjas, mange, la moussonne, c'est la souris. Mais on pourrait dire la moussonne, manjas, la cato, ça voudrait dire la même chose. Avec le son N, on sait que c'est la souris qui est mangée par le chat.
Et pas l'inverse.
Voilà. Alors, des articles, l'article en espéranto, il y a qu'un seul article, c'est-à-dire, quand on met rien, c'est que c'est indéfini. Cato, un chat. Et la cato, c'est le chat. Et là, c'est aussi bien pour masculin, féminin. Hein. La viro, l'homme. La virino, la femme. Ou singulier, pluriel. L'arbo, l'arbre. L'arboy, les arbres. On avait vu quelques préfixes, suffixes tout au long de l'année. Je rappelle les plus importants. Par exemple, on forme le contraire en mettant le préfixe mal. Par exemple, varma, qui veut dire chaud. Mal varma, ce sera...
Froid,
voilà. Le féminin, je l'ai vu tout à l'heure, j'ai prononcé tout à l'heure, je disais viro, l'homme, virino, c'est la femme. Donc le féminin, c'est in, hein, qu'on intercale entre la racine et puis la terminaison o, la terminaison du nom. Donc in, ça indique le féminin, ou quand c'est pour des animaux, ce sera la femelle. Hein, hundo, le chien, ça vient de l'allemand. Hundino, la chienne. Et le petit, justement, c'est id. Hundido, ce sera le chiot. Ei, ce sera le lieu. Par exemple, chevalo, le cheval, chevaleio, ce sera l'écurie. Donc ça peut être pour des animaux, mais ça peut être aussi pour d'autres choses. Par exemple, apprendre, c'est lerni, comme en anglais. Lerneio, ce sera l'école, le lieu où on apprend. Il y a le suffixe ist qui indique la profession. Par exemple, dentisto, dento, la dent, dentisto, le dentiste. Ça, c'est comme en français, mais pour y en avoir, pano, le pain, panisto, le boulanger. Là, c'est pas pareil en français.
Il existe, hein, de toute façon, des dictionnaires en espéranto. Rassurez-nous.
Oui, il en existe. Hein. On en vend même ici à Espéranto Bretagne. Vous pourrez même, je crois, les commander à travers le site ou du moins trouver les coordonnées de l'association. Et, c'est le diminutif. Egg, c'est l'augmentatif. On les a peut-être vus, ceux-là. Ça sert à tout nuancer, par exemple. Pluvas, c'est-à-dire il pleut. Pluvetas, il crachine. Et pluvegas, il pleut des cornes. Hein. Il pleut des chats et des chiens, comme disent les Anglais. Alors voyons assez rapidement la conjugaison. Alors je rappelle les pronoms personnels. Je, c'est mi. Tu ou vous, c'est vi. Il, c'est li. Elle, c'est chi. Il ou elle pour les choses ou les animaux, hein, mais surtout pour les choses, une table par exemple, ce sera J, hein, ça s'écrit G accent circonflexe I. Nous, c'est ni. Vous, je l'ai dit, c'est vi, hein, aussi bien pour vous et tu, c'est le même. Et il au pluriel, c'est idi. Alors donc, les verbes à l'infinitif se terminent tous en i, hein, manji, manger, esti, être. Alors au présent, ce sera en as, mi manjas, je mange. Le passé, ce sera en is, mi mangis, je mangeais, et le futur ce sera en os, mi mangos, je mangerai. Alors on peut rajouter, pour que la conjugaison soit complète, le conditionnel qui est en us, us, hein, le us prononce toujours ou, mi manjus, je mangerai, et ou, le u tout seul, à la fin, qui indique l'impératif, manju, mange. Alors à partir de là, on peut faire des phrases interrogatives, par exemple en mettant le mot chou qui veut dire est-ce que, par exemple, chou la cato manjas la moussonne, est-ce que le chat mange la souris, ce à quoi on répond par yes, qui veut dire oui, ou non, c'est né, hein, né. Alors justement, c'est le même mot né qui veut dire à la fois dire non et qui à la fois sert à faire la négation, dire ne pas, c'est-à-dire la cato ne manjas la moussonne, le chat ne mange pas la souris. Et enfin, juste pour finir, on se rappelle un petit peu les chiffres en espéranto. Alors 1, c'est unu, 2, c'est dou, 3, c'est comme en breton, c'est... Tu sais pas ?
Je ne parle pas breton.
C'est tri, le triskel. Hein.
Triskelartolo aussi.
Voilà. 4, c'est kvar, hein, ça s'écrit K-V-A-R, ça vient du latin quar, quartus. 5, hein. C'est gvin, là aussi ça vient de quinte, etc. 6, c'est ses, 7, c'est sep. 8, c'est ok, 9, c'est now, et 10, c'est dek. Et à partir de là, on peut compter jusqu'à 11, ce sera dek unu, dek du, dek tri. 20, ce sera dudek, dudek unu, dudek du. 30, tridek. Alors ensuite, on a tsen, c'est 100, et puis 1000, c'est 1000. Et voilà.
On a fait le tour, Sébastien?
Voilà, c'était des grosses révisions avant la dernière émission du mois prochain.
Et ce sera au mois de juin qu'on vous retrouvera avec grand plaisir. Vous aurez plein de rendez-vous à nous fixer pour l'été, puisque ça va être très riche en événements.
En effet.
Gis, Sébastien.
Gis, Catel.